Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au public ici installé dans la cour du musée Calvet à Avignon. Nous sommes installés jusqu'à demain pour donner la parole aux hommes et aux femmes qui font ce festival. Aux alentours de 13h30, comme tous les jours, nous accueillerons Joël Gaillot qui s'entretient tous les jours avec un artiste du off. Aujourd'hui, ce sera Adrien Béal. Puis, nous tirerons le portrait de Madeleine Louarn, metteur en scène qui crée ici Ludwig, un roi sur la lune, un spectacle musical sur Louis II de Bavière avec des interprètes handicapés. Mais tout de suite, une rencontre entre deux artistes. Arnaud Meunier, vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi directeur de la Comédie de Saint-Étienne. On peut voir de vous ici Truck Stop, hein, sur un texte de Lotte Fekkermans. Alors, sur scène, il y a une mère et sa fille qui vivent dans un restaurant routier et le couple qu'elle forme va être perturbé par un coup de foudre entre la fille et un jeune camionneur voisin. Et Thierry Thionang, vous êtes chorégraphe et metteur en scène. On peut voir deux spectacles de vous ici, une reprise touchée par l'effet dans le off et une création dans le in qui s'appelle Au cœur. Sur scène, une dizaine de jeunes, la plus jeune doit avoir 8 ans, et un musicien autour du mouvement de la chute, entre autres, on va y revenir. En tout cas, vous partagez tous les deux un lieu qui s'appelle les Pénitents Blancs, ici à Avignon. C'est une chapelle qui est en plein cœur de la ville, assez étroite, mais haute. Vous, Thierry Thionang, vous l'utilisez vraiment dans toute sa dimension. Les danseurs évoluent de long en large jusque dans les transepts sur les côtés qui servent de coulisses d'où ils prennent leur élan pour s'élancer sur le plateau. Vous, Arnaud Meunier, un peu à l'inverse, vous avez créé une sorte de boîte dans la chapelle, le fameux restaurant où se passe toute l'action, le Truck Stop. Comment tous les deux vous vous êtes adaptés à ce lieu-là, Thierry Thionang?
Avec 13 interprètes, plus un musicien, quand j'ai vu la chapelle, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je puisse ouvrir les deux ailes sur les côtés, puis et de chercher, comme c'est une création, j'ai pris le temps, on est resté 3 jours dans cette chapelle, où on a pu travailler avec les enfants et chercher ensemble la manière de réinventer les différents moments chorégraphiques. Mais comme ce spectacle va tourner dans 3 lieux différents, donc on va être presque à ciel ouvert demain à la Chartreuse, et puis ensuite dans les salles de la collection Lambert. Donc les enfants étaient prêts aussi à adapter les différentes instants chorégraphiques, et très vite on a réussi à utiliser tout l'espace. Et j'ai essayé de chercher comment cet espace, il pouvait être plein, pouvait être vide, comment il pouvait passer sur les côtés, comment il pouvait tout à coup se retrouver au centre, et de garder cette proximité qu'on pouvait avoir avec le public.
Puis c'est une chapelle aussi, est-ce que cette dimension-là, la dimension un peu sacrée du lieu qui est quand même très haut, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé en vous installant dedans ?
Pas vraiment, après c'est l'éclairagiste Jimmy Bourri qui a essayé comme ça de traiter aussi toute la lumière sur tout le mur. Et le fait d'avoir un néon donc dessiné par Claude Lévesque, qu'on a descendu très bas pour donner cette idée que comment travailler sur la chute, qu'est-ce qui se passe quand un enfant tombe. Donc je voulais vraiment aussi donner cette idée de la verticale et de la hauteur, et un peu comme qu'est-ce qui se passe quand un enfant tombe de haut, qu'est-ce qui se passe quand un enfant reste au sol. Donc il fallait aussi donner un peu de cette hauteur.
Arnaud Meunier.
C'est presque le principe complètement inverse, puisque moi c'est un huis clos intimiste entre 3 personnages dans un décor donc de relais routier, un truck stop. Donc nous on a cherché avec le scénographe Nicolas Marie à s'inscrire entre ces colonnes sans les nier, c'est-à-dire que du coup on les assume dans une partie du décor, mais en même temps effectivement on a chercher à créer ce lieu au sein de cette chapelle. Moi, le lieu, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de monter cette pièce aussi au festival, c'était pour ce lieu. C'est un des lieux dans lesquels j'ai vu parmi les plus beaux spectacles du Festival d'Avignon. C'est vrai que ça a été un lieu pour moi très inspirant, même si, comme le principe, c'est que ce soit un lieu dédié à la jeunesse. Les spectacles, il y a un spectacle par semaine, donc contrairement à Thierry, moi, j'ai eu quasiment pas de temps de répétition à l'intérieur de ce lieu. Il fallait être prêt en arrivant.
Vous pensez à quel spectacle que vous avez vu là-bas ?
La nuit tombe, par exemple, de Guillaume Vincent. Je crois y avoir vu aussi Yann Fabre. J'ai vu un Romeo Castellucci dans cette petite chapelle. Ça a été aussi un lieu historique. C'est là où l'aventure de théâtre ouvert avec Lucien et Micheline Atoun a démarré. Enfin, voilà, c'est pas un des moindres lieux du Festival d'Avignon.
Thierry Thunang, vous parliez des autres lieux où vous allez jouer, parce que c'est un spectacle presque itinérant, puisqu'il va se jouer dans 3 lieux différents en Avignon. Il y a un des lieux qui est la collection Lambert. C'est pas la première fois pour vous que vous faites jouer des jeunes dans un musée. Vous avez déjà travaillé ça, je crois que c'était dans le cadre d'une carte blanche au Louvre. Qu'est-ce que ça suppose comme type de jeu de jouer dans un musée ?
Le choix de la danse a toujours été invité dans des lieux un peu insolites. Et que ce soit des musées, que ce soit les jardins, que ce soit des lieux, même la prison, parce que je viens de faire un projet justement où je fais danser des prisonniers. Et je trouve que c'est intéressant de déplacer le mouvement, de déplacer les corps. Donc les salles du musée, c'est aussi un endroit où il y a une autre lumière, un autre rapport du corps. On peut tourner autour. On peut voir un corps de très loin, on peut voir un corps de très près. Et puis, il y a la résonance des œuvres dans le musée, que ce soit au Louvre ou ici à la collection Lambert. C'est de chercher comme ça des résonances, des échos, des correspondances entre un corps qui danse et puis un tableau, que ce soit ou une sculpture.
Est-ce que les jeunes avec lesquels vous travaillez vous ont parlé de ce changement de lieu ? Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour eux ? Est-ce qu'il y a des lieux qu'ils préfèrent ?
Non, c'est pas vraiment un lieu d'un moment d'inquiétude. J'ai beaucoup travaillé avec eux puisque je les ai rencontrés à partir dès janvier et on a déjà commencé à travailler dans différents espaces. Donc ça pouvait être un petit espace, un grand, ça pouvait être un gymnase. Enfin, j'ai vraiment voulu aussi que tous les moments où je les retrouvais, on soit pas dans le même lieu de répétition pour qu'on puisse que la danse puisse s'inscrire autrement à chaque fois. Et les enfants sont quand même des personnes incroyables et dans la capacité à s'adapter et à inventer suivant ici et maintenant.
Vous le disiez, Arnaud Meunier, c'est un lieu qui est dédié maintenant au spectacle jeune public. Ce que je trouve étonnant, moi personnellement, parce que c'est un lieu très grave, qui est dur. Comment vous comprenez, vous, ce choix d'Olivier Py?
Ouais, je pense que Olivier, dans ce que m'a dit Olivier, c'est que il voulait que ça soit un lieu qui soit beau. Donc voilà, donc on connaît la spiritualité d'Olivier Py. Donc je pense que l'idée que ça soit une chapelle, ça lui plaisait bien. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui dégage beaucoup de grâce aussi. Donc je pense que quand j'en ai parlé avec Olivier, il m'a dit qu'il fallait pas les envoyer, je sais pas quoi, au fin fond d'une salle en banlieue d'Avignon. Le fait que ça soit un lieu justement historique dans le cœur d'Avignon et puis un lieu important pour le festival, c'était une manière de dire que c'était pas une sous-programmation. Et ça, je pense que c'est une chose importante parce que dans notre profession, il y a encore pas mal de préjugés et d'a priori qui se baladent sur les spectacles a priori destinés pour la jeunesse. Et je pense qu'effectivement, leur confier un lieu aussi important que la Chapelle des Pénitents Blancs, c'est un geste fort.
On va y revenir. Arnaud Meunier, vous avez été repéré à Avignon par Stanislas Nordet, je crois, alors que vous jouiez dans le Off. C'était quoi ce spectacle que vous jouiez?
C'était déjà une pièce d'un auteur vivant. C'était une pièce de Michel Azama qui s'appelle Croisade. Et c'était effectivement mon tout premier spectacle, ma toute première mise en scène, c'était en 98, et à l'époque un jeune directeur de Centre Dramatique National qui s'appelle effectivement Stanislas Nordet, qui dirigeait à l'époque le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, m'y a repéré et m'a ensuite mis le pied à l'étrier. Oui.
Vous, Thierry Thunang, c'était quoi votre premier festival d'Avignon?
C'était en 2000, avec j'étais danseur et interprète chez Fatoumi l'Amoureux, et ça s'appelait Fiesta, et c'était à l'Opéra d'Avignon.
Quel souvenir vous en gardez, première Avignon?
Un beau souvenir, non, c'était la première fois que je venais à Avignon, c'était la première fois que je dansais au festival, et voilà, c'était content.
Vos deux publics sont donc des spectacles jeunes publics, entre guillemets, dans le programme du festival, c'est comme ça qu'ils sont catégorisés. Est-ce que vous les avez créés tous les deux avec ce type de public en tête? Est-ce que vous avez projeté un certain public jeune pour ces spectacles? Arnaud Meunier.
Moi, pas du tout. Moi, je pense que la clé d'un spectacle qui s'adresse à la jeunesse, c'est de surtout pas imaginer qu'il faudrait mettre en scène spécifiquement pour la jeunesse. De toute façon, je pense que la clé d'un spectacle dit jeune public réussi, c'est d'imaginer qu'il va intéresser autant les grands que les plus jeunes. Donc moi je pars toujours du principe qu'au contraire, souvent dans ce type de spectacle, c'est plus l'appréhension des adultes d'emmener des plus jeunes avec eux et le fait qu'ils projettent sur eux des difficultés potentielles d'accès ou de compréhension qui est souvent une difficulté, alors qu'au contraire, on constate, et notamment sur les plus jeunes, bon, moi c'est plutôt à destination des adolescents, il est à partir de 13 ans le mien. Au contraire, je constate souvent une capacité à rentrer plus facilement des plus jeunes dans les spectacles et que c'est plus tard que les difficultés arrivent. Donc moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas mettre en scène en ayant ça en tête.
Vous, Thierry Thuenant, vous aviez un certain type de public en tête quand vous avez créé le spectacle ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un peu peur parce que on me disait, mais c'est bien parce que tu as des enfants et des adolescents sur scène, donc on va faire venir des enfants et des adolescents dans la salle. Et je voyais ma petite tribu avec des grands yeux en disant, mais on veut, c'est un spectacle pour tout le monde qu'on veut faire. Et donc du coup, j'ai beaucoup insisté pour raconter le projet et puis inviter les gens à dire non, c'est pas un spectacle pour les enfants parce qu'il y a des enfants, mais c'est un spectacle pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'il y a des enfants sur scène que des adultes peuvent pas être là, quoi. Donc.
Du coup, ça vous embarrasse plutôt cette intitulé jeune
ouais,
public.
Oui. Moi, je suis. Je pense que tous les spectacles que je fais et que j'aime sont pour tous les publics.
Arnaud Meunier, je sais que le jeune public, c'est quelque chose de fondamental pour vous. C'est une réflexion que vous menez dans la scène que vous dirigez à Saint-Étienne. Vous êtes directeur depuis 2011. Quelle forme elle prend, ce travail, pour vous au quotidien ?
Pour moi, c'était important d'affirmer que c'était un lieu de création tout aussi passionnant et même parfois plus innovant que les spectacles traditionnels. Ça m'a toujours frappé que c'est dans les catégories de spectacles dits jeunes publics, parce qu'effectivement, je trouve qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans ce ghetto de cette formule jeune public qui est un peu creuse, à mon avis. Mais c'est là, par exemple, où souvent les auteurs vivants ont été montés et découverts. Moi, je répète toujours quand même que Joël Pomera est passé quand même de l'inconnu presque total qui jouait au fin fond du lavoir moderne parisien, on était 15 à l'époque, au succès à travers Le Petit Chaperon Rouge. C'est vraiment Le Petit Chaperon Rouge qui a été le premier spectacle de Joël qui a été à ce point-là diffusé, programmé. Et donc souvent, les programmateurs sont moins frileux, on va dire, pour le jeune public, pour les auteurs vivants. Et que, comme c'est un des fers de lance et un de mes chevals de bataille, je trouve qu'effectivement, il y a là un secteur qui me paraît passionnant et innovant. Donc à Saint-Étienne, ça prend une forme simple, c'est qu'il y a au minimum 6 spectacles par saison qui sont à destination des plus jeunes, donc des primaires. Et puis maintenant, par rapport, on essaye d'estampiller aussi, pareil, à peu près le même nombre pour les adolescents. Parce que souvent, les théâtres sont de plus en plus... Le travail sur les lycéens est formidable et fait depuis longtemps. On est de plus en plus fort sur les plus jeunes, sur les primaires. Le chaînon manquant pour moi, ça reste l'adolescence et le collège. C'est là où il y a encore à travailler et à imaginer des choses.
C'est plus compliqué pour eux ?
C'est plus compliqué parce que, d'abord, le monde a changé, les enseignants aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps sur tout un tas de spectacles avec des associations venues perturber des spectacles, sur la question du genre, sur la question de l'homosexualité, sur la question de ce qu'on peut dire ou pas. Donc il y a beaucoup de censure maintenant qui s'exerce et de la part des élus et de la part d'associations militantes souvent réactionnaires. Ça crée une pression sur les enseignants, quoi, indéniable. Et je vois que voilà, il y a un petit peu plus de frilosité à cet endroit où pouvait moins y en avoir auparavant. Moi, j'ai un souvenir d'être allé au musée d'Orsay comme collégien, je pense que j'étais en 5e, et où on ne m'a pas caché L'origine du monde de Gustave Courbet. Quand moi j'ai monté L'enfant et les sortilèges au Festival d'Aix-en-Provence, qui était un opéra vraiment qu'on a destiné aussi aux plus jeunes, on m'a reproché d'avoir mis en scène la scène du chat et de la chatte de manière trop explicite, alors que c'est très clairement dans l'œuvre et c'est très clairement dans le livret. Donc je vois que c'est une période sur laquelle il y a un petit peu plus de frilosité. Et puis aussi, par rapport à l'adolescence, il faut des sujets forts. L'adolescence, c'est un moment où on est confronté avec son corps qui grandit, l'appréhension de l'âge adulte, et les spectacles doivent proposer des sujets fort et percutant. On est sorti de la période de la fable et du conte. On cherche quand même des thématiques plus puissantes. Et donc, je pense que ça demande aussi des recherches de spectacle.
C'était comme si je le voyais pour la première fois. Ou plutôt l'entendais. Je l'entendais pour la première fois.
C'était comme si ses yeux me transperçaient. C'était presque flippant, ses yeux, ce regard.
Comme si je ne l'avais jamais vu.
C'est pas vrai. Tu le connais depuis des années. C'est Remco, le fils des Van Vliet. Qui font dans les bestioles, là? Tu sais bien, les autruches.
Ma mère vous demande si je peux en déposer ici, pour information.
C'était des brochures.
Non, mais parce qu'on en dit tellement de mal pour le moment, c'est pas juste, d'après elle. Et si vous voulez bien envisager de mettre de la viande d'autruche au menu, on vous ferait une ristourne, hein, bien entendu.
Maman a pris les brochures et les a feuilletées. Moi aussi. Et j'ai vu ces drôles de bêtes pour la première fois. Toi aussi, tu fais danser bestioles ?
Non, moi je suis chauffeur chez Van Herp.
Et ses yeux se sont mis à briller.
Ça fait bien 5 ans.
Il y avait quelque chose dans sa voix, comme si je l'avais déjà rencontré quelque part.
C'était comme si elle me voyait pour la première fois et que c'était extraordinaire.
Dans Truck Stop, on l'entend dans cet extrait, il y a 2 niveaux de paroles qui sont d'ailleurs portés par les mêmes personnages. Il y a la parole directe, qui est donc ce qu'on entendait, les dialogues entre les personnages, et puis il y a le récit qu'ils prennent en charge face publique la plupart du temps. Ça, c'est un procédé qu'on voit dans beaucoup de spectacles, d'ailleurs, cette année, dans le Gosselin, dans le Bellorini, entre autres, des spectacles très narratifs. Cette épaisseur-là, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire à vous, Arnaud Meunier ?
Avec Aimant, c'est qu'elle utilise à peu près toutes les formes de théâtralité, c'est-à-dire le dialogue, bien sûr, mais aussi le monologue intérieur, l'aparté. Elle joue beaucoup avec ses registres de narration et à travers une dramaturgie qui est morcelée. Donc la pièce est écrite en 21 morceaux. L'écriture est très cinématographique aussi de ce point de vue-là, parce qu'on sent qu'elle est inspirée par des procédés de cinéma, par exemple, comme ceux de David Lynch, vraisemblablement, Iñárritu, le cinéaste mexicain qui avait fait 21 grammes et Babel. Donc on sent qu'elle a envie de... Elle utilise le flashback, le flash-forward constamment. Et c'est ce morcellement de la dramaturgie et cette manière très non académique et non conventionnelle de raconter une histoire, je pense, qui est particulièrement passionnant à travailler au plateau. Surtout que c'est un trio, une mère et sa fille, et puis le fiancé de la fille. Et ça, je pense que la manière dont elle tisse une sorte de partition qui est une dentelle, c'est à la fois très jouissif à jouer pour les comédiens, et en même temps, je pense que c'est aussi un lieu d'intérêt pour les spectateurs, et notamment les plus jeunes, parce que c'est comme un puzzle qu'on reconstitue au fur et à mesure de la pièce.
Thierry Thionnang, vous, votre spectacle, il est peu parlé, il y a un peu de texte, on en reparlera. Il est surtout très musical. Il y a Robin Farreau à la viole de gambe, c'est lui qui arrive d'abord sur scène. Il chante aussi et il n'est pas du tout immobile dans un coin. Lui aussi, il circule sur le plateau. Il change de position, il change de posture aussi physiquement. Comment vous avez envisagé ces déplacements à lui dans la chorégraphie globale du spectacle ?
C'était un peu à lui de trouver au milieu du mouvement des enfants, puisque il est arrivé lui aussi très tard dans l'aventure. J'avais envie d'un musicien qui les accompagne de toute façon, et un instrument ancien. Je trouvais que traiter de l'enfance aujourd'hui, j'avais besoin d'entendre une voix, quelque chose de très loin, une musique quelque chose d'archaïque, quelque chose d'ancien qui vient soutenir ces enfants-là. Les enfants chantent a cappella aussi, puisque la chanteuse Camille leur a composé deux berceuses. Et sur la thématique de l'enfant qui tombe, l'enfant qui dort, l'enfant qui meurt, je voulais avec les enfants trouver une musicalité différente, quelque chose qui leur est aussi très lointain. Et Robin fait de la viole de gambe depuis qu'il est tout petit. Il chante aussi, il improvise. C'est très rare d'avoir un viol de gambiste qui improvise. Donc il improvise au milieu du mouvement et très vite, pour des histoires de corps d'enfants qui courent, qui tombent, qui se prennent dans les bras, on a dû chercher comme ça des places. Et puis aussi par rapport à la chapelle, de chercher aussi à quel endroit la voix et la musique pouvaient partir et trembler.
On écoute un extrait.
Tard, mon ombre tard,
C'est vous, Thierry Thionnant, qui aviez demandé à Camille, à la chanteuse Camille, de composer précisément des berceuses. C'était la forme que vous vouliez ?
Oui, je voulais que je voulais des berceuses. Je voulais des berceuses. Au départ, je pensais à des berceuses venant un peu de différents pays. Et puis, et en fin de compte, elle a cherché et voilà, elle a en polyphonie comme ça, elle a proposé des choses aux enfants. Et elle les a fait improviser. Ils se sont pris dans les bras. Ils ont improvisé des chants, des sons. Et puis elle a composé donc ces deux berceuses.
Ça donne une forme de consolation, je trouve, pour le spectateur, parce que votre spectacle est difficile parfois. Ce sont donc des corps, beaucoup de corps d'enfants qui tombent. On ne sait jamais s'ils sont endormis ou s'ils sont morts. Et puis aujourd'hui, voir des enfants comme ça chus sur le sol, c'est difficile. Est-ce que vous l'avez conçu comme un spectacle douloureux, Thierry Thionnang ?
Non. J'ai rencontré ces enfants juste après les événements de novembre. Je suis arrivé de Paris où je vis avec cette histoire-là, et je les ai rencontrés ici, et du coup ils m'ont posé plein de questions sur Paris et comment était Paris, comment Paris se relevait, et du coup, pour pas rentrer dans le drame, dans la colère, on a improvisé, voilà, de se porter, de se faire tomber, de qui allait tomber le plus vite, qui allait tomber le plus lentement, qui allait se relever, comment tomber en arrière les yeux fermés, l'autre te rattrape. Donc on a travaillé là-dessus de façon plutôt joyeuse, plutôt ludique. Et à partir de cette thématique, voilà, on est d'or, mort, corps. Camille et Claude Lévesque, on les a fait travailler en art plastique et en chant. Et je crois que la gravité, elle est arrivée quand on est arrivé à la chapelle des pénitents blancs, où tout à coup on a eu cette chose un peu forte. Et puis voilà, c'est un spectacle qui nous console, mais je crois qu'un enfant aussi, on console un enfant, mais un enfant peut aussi nous consoler, nous adultes, et voilà.
Arnaud Meunier, la mort, elle est aussi très présente dans votre spectacle. C'est assez frappant quand même que ces deux spectacles jeune public soient aussi hantés par quelque chose de profondément, dans le cas de la pièce que vous montez, violent. Il y a des morts, il y a des relations abusives entre une mère et sa fille qui sont quand même extrêmement compliquées. La maladie, puisque cette jeune fille, elle est quand même un petit peu particulière. La crise qui menace le fameux truck stop. Le sexe aussi, il est présent sur scène. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec une pièce aussi difficile, Arnaud Meunier ?
Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux adolescents. Je pense que les thématiques qui concernent les adolescents sont des thématiques fortes. Donc effectivement, l'amour, la mort, l'empêchement, hein, la différence entre ce qu'on espère et ce qui advient, l'attente d'une vie meilleure, l'angoisse par rapport à l'âge adulte ou à la vie moderne. Tout ça, c'est des thématiques, à mon avis, qui parlent directement aux plus jeunes. Après, je pense que c'est des thématiques dont il ne faut pas avoir peur par rapport aux jeunes spectateurs. Là, en l'occurrence, c'était lié à la pièce. Je pense que, par exemple, quand je parle avec à la sortie, quand je discute avec les plus jeunes quand ils sont venus nous voir, ce qui me frappe, c'est qu'ils ne ressentent pas du tout la pièce comme étant noire ou désespérante.
Et ça les amuse beaucoup. En plus, hein, beaucoup.
Oui, oui, c'est-à-dire que ce qui les attrape, c'est le polar, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est un polar social. Donc, l'univers du polar est un peu noir. Le suspense, le thriller, la manière dont on est happé dans l'intrigue, dans l'histoire, je pense que c'est par là que ça les attrape. Après, effectivement, visiblement, dans ce festival, il y a pas mal de cadavres et de fantômes qui se baladent. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier sur le fait que le polar était le genre romanesque qui revenait le plus à la mode au moment où les sociétés étaient en perte de repères. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez logique.
l'exil, notamment Thierry Tuenang, est une des lignes de mire du spectacle. Quand les enfants sont à terre, évidemment, mais aussi quand les enfants se tirent par les vêtements, on a l'impression qu'ils pourraient presque se jeter les autres hors d'un territoire. Il y a quelque chose aussi de la défense du territoire dans les mouvements. Vous évoquez dans le petit livret vos propres origines vietnamiennes et celles d'ailleurs de Linh Dale qui a écrit le texte du spectacle. L'exil pour fou, c'est un sentiment que vous avez vécu enfant. Comment vous l'avez mis sur scène ?
À partir de cette idée, qu'est-ce qui se passe de ces corps déplacés, ces corps qui tombent, qui chutent, les enfants ont beaucoup parlé aussi des autres enfants qu'ils croisaient dans la rue, ici, ou à travers les images de la télévision, des enfants migrants, des enfants réfugiés, des enfants échoués. Et donc c'était pour moi très fort de parler avec eux de qu'est-ce que c'était d'être déplacé, qu'est-ce que c'était de se reconstruire dans un autre pays, comme on se reconstruit dans une autre famille, dans une autre histoire. Et du coup, on a parlé pas vraiment de l'exil, mais du voyage, du passage, de la question de la frontière, de passer de l'autre côté. Et puis, évidemment, comme il y a des enfants de différentes origines aussi, différentes cultures dans mon groupe, on a évoqué forcément nos familles, nos origines, les voyages de nos parents, de nos grands-parents. Et moi, je suis né en France et j'ai la chance par rapport à mon métier de voyager, d'être déplacé, de travailler dans différents pays, différentes cultures. Donc, je me sens pas un exilé et je me sens vraiment quelqu'un à chaque fois où je suis dans un endroit, j'ai l'impression d'y être. Voilà, donc. Mais avec l'enfant, les adolescents d'aujourd'hui, j'ai senti que c'était très, très important pour eux de parler du passage d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un monde à l'autre. Donc dans le spectacle, on les voit passer d'un espace à l'autre, avec des moments plus calmes, avec des moments où on ne peut pas bouger, donc on se couche tous par terre et on porte l'autre qui passe des bras aux autres bras pour pouvoir traverser. On se porte, on se cache, on pousse des brouettes pour aller d'un endroit à l'autre. Et voilà, on a inventé aussi comment passer d'une frontière à l'autre.
Votre collaboration avec Linh Dale, comment elle s'est passée ? C'est elle qui a écrit à partir de vos mouvements ? C'est vous qui vous êtes calé sur le texte ?
Comment non, Linda arrive aujourd'hui. Elle n'a pas vu le spectacle encore. Elle a vu des images, Les enfants lui ont écrit des lettres, lui ont écrit des mots. Et à partir de cet échange, c'est son premier texte de scène. Donc, elle leur a raconté comment elle était venue comme boat people du Vietnam. Donc, elle a raconté comment elle, vietnamienne, à un moment donné, elle a écrit en français, dans une langue d'adoption. Qu'est-ce que c'était de changer de langue ? Et donc, comment les enfants se sont emparés de cette langue étrangère qui est en même temps écrite en français.
Arnaud Meunier, vous vantez presque de n'avoir monté que deux classiques dans votre parcours. C'était lesquels en l'occurrence ?
J'ai fait l'Iphigénie de Racine et La vie est un songe de Calderón de la Barca.
Vous considérez vraiment que pour parler aujourd'hui sur scène, les textes anciens ne sont pas valides ?
Ah non, je ne monte pas des auteurs vivants contre les classiques. Je monte les auteurs vivants par goût et par appétit personnel. Voilà, c'est vrai que le projet que je mène à Saint-Étienne est très centré sur les auteurs vivants. Aussi parce que je pense que pour parler du monde d'aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant de le faire avec les écritures d'aujourd'hui. Même si, évidemment, que les Shakespeare, Molière, Racine, Goethe, Hugo, etc. continuent à nous parler, à nous raconter des choses et à constituer un patrimoine qu'il faut défendre. Donc je ne le fais pas contre. Simplement, je pense qu'il faut aussi, de temps en temps, être un peu volontaire quand on veut affirmer quelque chose. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'actuellement, l'immense majorité des production et des programmations sont très dominées par le répertoire classique et que donc c'est bien qu'il y ait quelques maisons qui à l'inverse donnent des coups de vapeur dans le sens inverse pour faire découvrir des nouvelles écritures, des nouveaux auteurs, des nouvelles manières de raconter le monde. Donc c'est beau de le faire en plus au cœur d'un projet d'un théâtre populaire qui est la Comédie de Saint-Étienne. C'est toute l'aventure de Dasté, on va fêter nos 70 ans en 2017, donc de se dire qu'on peut faire un théâtre populaire avec une écriture d'aujourd'hui, ça me paraît être un un projet excitant. Donc voilà, puis c'est vrai que moi, comme metteur en scène, j'ai moins d'appétit pour les classiques.
Vous comprenez ça, Thierry Tuenang?
Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y a des endroits où aujourd'hui il faut amener de nouvelles paroles, de nouveaux textes, des auteurs, des hommes, des femmes, des gens issus de différentes diversités. Mais tout ça, ça se fait pas contre. Ça se fait avec. Ça se fait parce que. Ça se fait ensemble. Et pour aborder une œuvre contemporaine, il faut passer par l'histoire de l'art. Et par exemple, avec les enfants, il y a de la littérature pointue qui est donc Linda Lay, mais il y a Camille et puis Claude Lévesque. Mais ce qui nous relie tous, c'est vraiment l'enfance de l'art, l'histoire de l'art. Et à partir de là, forcément, on va chercher dans le passé. Mais il y a l'urgence du présent, et en travaillant avec des enfants et des adolescents, forcément on est dans un présent, et il faut pouvoir l'accompagner sans forcément dire qu'avant c'était mieux, quoi.
Arnaud Meunier.
Oui, puis par rapport à l'histoire de l'art, c'est très important ce que dit Thierry. C'est-à-dire que je dirige aussi une école supérieure d'art dramatique, puisque Saint-Étienne c'est un centre dramatique national et une école supérieure d'art dramatique, et que bien sûr que l'apprentissage via les grandes écritures du répertoire fait partie évidemment de l'enseignement par rapport à nos élèves. Même si c'est vrai que je pense qu'on leur transmet un goût et un appétit féroce pour effectivement l'écriture aussi, puisque par ailleurs pas mal d'anciens élèves de Saint-Étienne sont devenus ensuite des auteurs et pas des moindres. Samira Sedira par exemple, qui a écrit ce très beau texte sur l'odeur des planches, c'est une ancienne élève de la commune de Saint-Étienne.
Là, en l'occurrence, c'est aussi des anciens élèves, ou des élèves d'ailleurs, je ne sais pas, qui sont
des anciens élèves, non,
et ils ont terminé, donc ça s'appelle
Morin-Oles. Manon Raffaelli et Morin Oles, oui.
Comment vous les avez dirigés? Est-ce que vous les avez dirigés de manière particulière parce qu'ils venaient justement d'une école que vous défendez?
Non, enfin, ce qui est très beau, c'est que c'est un trio qui, d'habitude, moi je mets beaucoup d'énergie et de temps pour fédérer une équipe. Je suis un metteur en scène qui a besoin de ça. Je pense pas qu'il faille diviser pour mieux régner en tant que metteur en scène. Au contraire, je compare beaucoup le travail du metteur en scène à celui du chef d'orchestre ou à celui de l'entraîneur dans une équipe de foot. C'est-à-dire que on est aussi celui qui donne le ton, le là, qui essaie de donner une énergie collective. Et là, évidemment, ce travail-là était presque déjà fait, puisque Manon et Morin étaient dans la même promotion et étaient deux comédiens qui s'entendaient très bien. Et Claire Aveline, qui est une comédienne magnifique avec qui je rêvais de travailler déjà depuis un certain temps, est une comédienne que je fais régulièrement intervenir à l'école. Donc, elle les a eues aussi comme élèves. Donc, le trio était quasiment déjà formé. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai voulu monter cette pièce, c'est que ce trio d'acteurs était idéal pour moi. C'est comme si Lotte Wekemans avait écrit pour eux trois.
Thierry Tuenang, les interprètes qui sont sur scène, vous les avez choisis vous-même, donc dans la région. Comment vous les avez choisis? Est-ce que vous leur avez fait passer un casting? C'est un grand mot, mais des tests?
Non, j'ai proposé plusieurs ateliers dans différentes structures, différentes associations, dans les collèges, dans les lycées, à la collection Lambert, au Secours Populaire. J'ai fait des week-ends et j'ai rencontré un groupe de personnes, donc à peu près une vingtaine dans chaque lieu, et ensuite on leur a proposé à la suite de ces 5 heures de travail s'ils voulaient me retrouver ou pas. Donc certains ont dit oui, d'autres non, et puis donc du coup j'ai mélangé tout le groupe dans ceux qui voulaient me retrouver, et puis à cette issue j'ai donc les groupes s'est mélangé, donc des enfants qui se connaissaient pas. Ils étaient surpris parce que j'avais décidé de mélanger plusieurs générations d'enfants. Et comme disait Arnaud tout à l'heure, l'âge du collège, c'est toujours très compliqué. Et je m'étais dit que cet âge-là, je pouvais les avoir s'il y avait des plus petits et des plus âgés. Et que le mélange des enfants de CP avec des enfants de terminale ou de troisième ou de seconde ou quatrième, ça pouvait vraiment être intéressant ces âges-là. Et donc du coup, ils étaient pas dans la compétition, mais il y avait quelque chose de plus fluide. Et puis ensuite, au groupe qui restait, ils étaient à peu près 25, j'ai donné la règle du jeu, c'était les vacances scolaires, c'est avec moi, c'est tout le mois de juillet à Avignon, c'est les week-ends, un emploi du temps, un contrat, puisque les enfants sont rémunérés, donc il y avait vraiment une chose. Ça voulait dire que les parents s'engagent à être là, ne louent pas leur appartement pendant le festival et s'en vont. Ils restent dans le festival. Ça demandait beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de... Et il y en a 13 qui sont restés, je les ai gardés tous.
Il n'y a jamais eu de friction entre les uns et les autres?
Non, ils ne sont pas tous copains, mais dans le travail, ils sont vraiment ensemble. Voilà, il y a énormément de belles choses qui arrivent. Ils savent que ce spectacle, je vais le transmettre à d'autres enfants plus tard, dans d'autres villes, dont des enfants primo-arrivants. Donc certains vont m'accompagner pour m'aider à transmettre ça dans d'autres villes. Voilà, mais non, il y a même des histoires d'amour dans le groupe, donc c'est super.
Vous avez été, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez été, mais en tout cas, vous avez une formation d'instituteur. Est-ce que vous mettez quelque chose de cette formation-là dans votre travail tous
J'étais instituteur et psychomotricien au siècle dernier. Et puis, non, je mets ma passion de la... Qu'est-ce que c'est transmettre ? Transmettre, c'est mettre en mouvement. Donc l'idée, c'était vraiment de continuer ça. À un moment donné, on m'a mis en mouvement par la danse, par le théâtre. Il y a des êtres comme ça exceptionnels qui ont traversé ma vie. Voilà. Et en danse, en musique, en théâtre. Et j'ai cette chose en moi où je me sens un passeur. Donc quand vous parlez de football, moi je suis dans l'athlétisme. Où je passe comme ça mon bâton de témoin et je le passe à des connus, des inconnus, des petits, des vieux, des empêchés, des virtuoses. Et l'enseignement, j'ai quitté l'enseignement parce qu'à un moment donné, je cherchais un espace plus grand pour pouvoir transmettre.
Arnaud Meunier, vous partagez avec Thierry Thunang le fait de ne pas venir de là au départ. Je sais que vous avez fait des études de sciences politiques. Alors, quels êtres exceptionnels, vous ont fait bifurquer vers le théâtre ?
La rencontre avec ma toute première professeure de théâtre, quand j'étais adolescent, justement. C'était dans un petit village en Charente, entre Cognac et Angoulême. C'est ce qui s'appelait même pas un conservatoire à l'époque, mais une école de musique. Ils ont ouvert une classe d'art dramatique. Et là, j'ai rencontré une femme qui a changé ma vie, oui, qui s'appelle Régine Attagra, qui est toujours vivante, et qui était ma première prof de théâtre. Et ça a été un choc très fort pour moi. Je pense que du coup, le théâtre ne m'a pas quitté, même pendant mes études plus classiques, on va dire. Je continuais à faire du théâtre et du coup, ça ne m'a pas lâché. Et ça, je pense que c'est une chose qui est très importante. Morin Aulès, qui est donc le comédien, parce qu'il y a ces deux femmes, un homme, le seul comédien du spectacle. Morin a commencé à faire du théâtre parce qu'il était en colonie de vacances dans le comité d'entreprise de ses parents, donc EDF-GDF. C'était un garçon qui faisait du foot et puis à un moment donné, ils ont eu besoin d'un garçon pour l'atelier théâtre à côté. Il a commencé à en faire comme ça. Ça lui a plu et ensuite il a continué au lycée, il a fait une option théâtre, ensuite il a fait le conservatoire de Marseille et il a intégré ensuite l'école supérieure de Saint-Étienne. Donc on voit bien à quel point la chaîne qui consiste à la transmission des pratiques artistiques par l'éducation populaire, par l'école, par l'éducation nationale, puis ensuite par les réseaux professionnels et les institutions, tout ça forme un tout. Et c'est souvent une chose complètement idiote que de vouloir opposer les lieux de l'excellence au lieu de l'éducation populaire. Je pense que tout ça forme un paysage très cohérent et très unique en France. On a là un écosystème qui est vraiment à préserver et on voit bien à quel point les rencontres avec un professeur de lettres, avec un artiste qui intervient dans une classe. Par exemple, moi, le directeur technique adjoint de la Comédie de Saint-Étienne, il a eu envie de venir travailler dans un théâtre parce qu'il a vu débarquer les jeunes comédiens de l'école à l'époque qui sont venus jouer dans son lycée. Ça a été une sorte de révélation et ensuite il n'a pas lâché.
Un grand merci à vous deux. Thierry Thunang, Au cœur joue à partir de demain et jusqu'au 17 juillet à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, puis à la Collection Lambert jusqu'au 23 juillet. Et Touché par les fées aussi, pour et avec Ariane Ascaride, joue jusqu'au 25 juillet. C'est au Petit Louvre. Arnaud Meunier, Truck Stop, c'est jusqu'au 16 juillet à la Chapelle des Pénitents Blancs. Il est 13h, passé de 25 minutes sur France Culture. Dans un instant, l'entretien de Joël Gaillot, puis le portrait de Madeleine Louarn. Mais tout de suite, extrait de la fiction qu'on pourra voir et entendre ce soir ici au Musée Calvet. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières, c'est le titre, dans le cadre du cycle Pascal Quignard.
tout son est l'invisible. Sous la forme du perceur d'enveloppe, qu'il s'agisse de corps, de chambres, d'appartements, de châteaux, de cités remparées, immatériel, il franchit toutes les barrières. Le son ignore la peau, ne sait pas ce qu'est une limite. Il n'est ni interne, ni externe. Illimitant, il est inlocalisable. Il ne peut être touché, il est l'insaisissable. L'audition n'est pas comme la vision. Ce qui est vu peut être aboli par les paupières, peut être arrêté par la cloison, la tenture, peut être rendu aussitôt inaccessible par la muraille. Ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloison, ni tenture, ni muraille. Indélimitable, nul ne peut s'en protéger. Il n'y a pas de point de vue sonore. Il n'y a pas de terrasse, de fenêtre, de donjon, de citadelle, de point de vue panoramique pour le son. Il n'y a pas de sujet ni d'objet de l'audition. Le son s'engouffre. Il est le violeur. Il se trouve que l'infini de la passivité se fonde dans l'audition humaine. C'est ce que je ramasse sous la forme. Les oreilles n'ont pas de paupières. Le son touche illico le corps, comme si le corps devant le son se présentait plus que nu, dépourvu de peau. Oreille, où est votre prépuce? Oreille, où sont vos paupières? Oreille, où sont la porte, les persiennes, la membrane ou le toit? Avant la naissance, jusqu'à l'ultime instant de la mort, les hommes et les femmes ouïssent sans un instant de cesse. Il n'y a pas de sommeil pour l'audition. C'est pourquoi les instruments qui réveillent le dormeur font appel à l'oreille. S'absenter de l'environ n'est pas possible pour Louis. Il n'y a pas de paysage sonore. Parce que le paysage suppose l'écart devant le visible. Il n'y a pas d'écart devant le sonore. Le sonore est le pays qui ne se contemple pas. Le pays sans paysage.
Un extrait en avant-première de la fiction « Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières, l'intégralité », ce sera ce soir en direct et en public de la cour du musée Calvet. Interprétation Pierre Beau et Garth Knox, conception Benjamin Dupé d'après la haine de la musique de Pascal Quignard, une fiction réalisée par Sophie Aude Picon. Il est 13h29, comme tous les jours, Joël Gaillot s'installe dans la cour du musée Calvet et s'entretient avec un artiste du festival OFF. Bonjour Joël.
Bonjour Lucille. Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un jeune auteur. Il s'appelle Adrien Béal. Sa compagnie porte le beau nom de Théâtre Déplié. Adrien Béal s'intéresse aux écritures contemporaines. Il a monté des textes de Michel Vinavert. Il a dirigé des lectures ou des mises en espace de textes de Guillermo Pisani et du japonais Orisa Hirata. Avant d'arriver dans le Off d'Avignon, son spectacle, Le Pas de Bem, est passé par des lieux qui actuellement à Paris sont à la pointe de la recherche, le Théâtre de Vanves et le Théâtre de la Loge. Ce spectacle, on y arrive. La scène est en quadrifrontale, c'est-à-dire que de chaque côté de l'aire de jeu sont disposées des rangées de sièges et des gradins. On est au Théâtre de la Parenthèse, en plein cœur de la ville, dont on entend la rumeur parfois un petit peu trop présente, mais les trois comédiens, Olivier Constant, Charlotte Corman et Étienne Park, sont suffisamment doués pour dominer les intrusions sonores et déployer une histoire à la fois ordinaire et totalement déroutante. Cette histoire, c'est celle d'un adolescent, il s'appelle Bem, B-E accent circonflexe M-E. Depuis des mois, Bem rend des copies blanches à ses professeurs lors des devoirs en classe. Incompréhension, stupeur, désarroi des enseignants qui ne se résignent pas à noter zéro un élève par ailleurs très brillant. La pièce circule de personnage en personnage dans une très grande fluidité. Et Adrien Béal évite tous les clichés qui auraient pu englouer son propos. Il parvient à dire en une heure de représentation à quel point un tout petit grain de sable peut venir gripper une machine très bien huilée. On pense beaucoup, Adrien Béal, devant cette représentation, à la phrase de Melville « I prefer not to ». Est-ce qu'elle vous a servi de guide pour écrire cette pièce de théâtre ?
Oui, ça fait partie des références. Ce n'est pas notre point de départ. Le point de départ, c'est un roman de Michel Vinavert, justement, qui s'appelle « L'objecteur » et qui raconte l'histoire d'un objecteur dans l'armée. Mais on s'est rendu compte que cet objecteur de Vinavert avait pas mal de cousins, parmi lesquels le Bartleby de Melville.
Je me suis aussi demandé, étant donné qu'il est quand même question de prof et d'élèves, et sachant qu'à Avignon, la plupart du public, en tout cas une grande majorité du public, vient du milieu enseignant, ce sont de fervents spectateurs de théâtre, si vous aviez pensé à eux en écrivant cette pièce et en venant avec dans le off à Avignon.
Non, on n'a pas du tout prémédité ça.
S'il y en avait dans la salle, hein, qui rigolait beaucoup.
Ouais, ouais. Et puis il y en a qui viennent nous voir après en nous disant que ça leur rappelle des élèves qu'ils ont eus. Mais l'idée première, c'était vraiment pas de faire un spectacle sur l'école, ni sur l'adolescence, ni sur les enseignants. C'était vraiment de travailler, de faire une expérience autour de la question de l'objection. Et pour ça, il fallait qu'on choisisse une micro-société, un cadre dans lequel faire advenir cette objection. Et on a choisi l'école. Donc après, du coup, ça parle d'école, pas mal, ouais.
Mais au fond, on ne sait pas trop pourquoi ce jeune Bem ne veut plus écrire lors des devoirs en classe, Adrien Béal.
Oui, on ne sait pas trop, mais on s'attache...
C'est vous l'auteur, vous le savez, vous ?
Ben, pas vraiment, non. Juste pour une petite rectification, je ne suis pas l'auteur, on est les auteurs avec les acteurs et moi-même. Mmh. C'est vraiment un spectacle qu'on a écrit à quatre mains dans les répétitions. Et pour nous, c'était important de ne pas trancher sur les raisons de son objection, de maintenir le mystère, et plutôt que d'essayer d'élucider ce mystère-là, de regarder ce que ça fait aux autres de ne pas savoir.
Au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est la réaction des autres et le désarroi dans lequel sont plongés ces enseignants qui, plutôt que de mettre zéro à cet élève parce qu'il le mérite, lui mettent 10.
Oui,
c'est bizarre. Et s'en veulent, et ne savent pas justifier ce 10.
Oui, oui. En fait, c'est une histoire banale. Enfin, des élèves qui rendent des copies blanches, il en existe plein, sans doute, dans l'histoire de l'école. Mais nous, avec la fiction, on a décidé d'imaginer que cette petite histoire pouvait provoquer une déflagration dans l'entourage. Et donc, effectivement, les profs ne savent pas quoi faire.
Ouais. Oui, c'est tellement juste dans l'observation qu'on se dit que ça sent le vécu, Adrien Béal.
Oui, un peu, je sais pas trop. En fait, forcément, nos expériences peut-être que ça sent le vécu parce que il se trouve que les trois acteurs et moi-même, on a passé pas mal d'années à l'école quand on était enfant et adolescent. Et que les spectateurs aussi, et c'est ça qu'on a en commun et peut-être qui fait que ça parle à tout le monde.
Alors, il faut dire aussi que vous êtes très jeune, hein, vous avez 33 ans, donc c'est pas si loin
c'est
que
pas
ça,
si loin.
Finalement, cette période. Il y a dans cette mise en scène un refus de spectacularisation,
oui,
et un grand attachement au détail, à l'infime. Et là, on retrouve quelque chose qui est proche de Michel Vinavert. C'est quelqu'un donc, qui vous a inspiré pour l'écriture de la pièce, c'est quelqu'un qui vous inspire aussi dans l'écriture elle-même.
Oui, beaucoup.
De quelle manière ?
Je suis très, très touché cette écriture de quelqu'un cette écriture qui est à la fois profonde et qui est un vrai geste et qui en même temps n'est jamais en surplomb, n'énonce jamais un point de vue mais organise la coprésence de plusieurs points de vue. Et je trouve que comme rapport à l'écriture et comme rapport au monde, je trouve ça très très beau.
Est-ce que vous aviez aussi envie de voir de quelle manière on peut faire résonner une polyphonie, sur une scène de théâtre, Adrien Béal ? Parce qu'à un moment donné, les acteurs disent le texte de façon concomitante. Et ce qui est extraordinaire, et pourtant c'est pas facile, parce qu'on entend les trompettes dans la rue, on entend les klaxons, on entend les gens crier. Et ce qui est incroyable, c'est que les trois acteurs disent le texte en même temps et qu'on entend absolument tout. Ce qui, j'imagine, veut dire qu'entre vous, il y a une complicité énorme et presque une familiarité.
Ouais. Les acteurs sont vraiment maîtres de ce spectacle, de cet objet. Ils le maîtrisent complètement et c'est la condition pour que ce que vous décrivez soit possible. Et c'était important pour nous, cette superposition des discours, justement. C'est le moment du spectacle où sont énoncées des hypothèses sur les raisons ou sur ce qui se passe dans la tête du personnage au moment où il est censé écrire et il n'écrit pas. Et donc il y a une explication, mais elle est annulée parce qu'une autre explication vient se superposer à elle, puis une autre encore, et donc c'est juste une superposition de points de vue.
Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à cette fluidité dans la circulation de la prise de parole ? Comment vous les avez ? Comment vous vous êtes dirigés tous ? Moi, vous n'êtes pas sur le plateau, mais,
oui.
Mais visiblement vous êtes co-auteur, donc sans doute aussi co-metteur en scène de cette histoire-là.
C'est un vrai travail d'écriture, mais d'écriture par le plateau. Le principe, un des principes pour l'écriture et pour la mise en scène, c'est que donc les acteurs, effectivement, les trois acteurs jouent tous les rôles, donc je ne sais pas combien ils jouent de rôles, mais ils ne les incarnent pas. L'enjeu du plateau, l'enjeu de la représentation, c'est la parole. C'est comme Bem est face à la question de écrire ou ne pas écrire, les acteurs sont face à la question de parler ou de ne pas parler. Et ils se distribuent mutuellement, réciproquement, c'est-à-dire que ce qui fait qu'une scène a lieu entre le prof principal et les parents, c'est le fait qu'à un moment, il y a un acteur qui s'adresse aux deux autres et qui dit « Votre fils, il est super. » Et donc, ils deviennent les parents. Et il suffit qu'un des trois acteurs, à un moment, par exemple, face à une injonction à laquelle il ne veut pas répondre, ouvre une nouvelle fiction, s'adresse à ses partenaires d'une manière nouvelle pour qu'une nouvelle scène commence et une nouvelle distribution des rôles et des points de vue se mettent en place.
Merci beaucoup Adrien Béal. Alors le spectacle se termine ce soir à 19h au Théâtre de la Parenthèse.
Demain.
Et c'est à 19h au Théâtre de la Parenthèse où a pris place le Théâtre de Saint-Denis qui organise plein de manifestations là-bas. Je vais y arriver, Lucille. Mais rassurez-vous, c'est un spectacle qui va très très longuement tourner la saison prochaine et que vous verrez d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'endroit où vous habitez.
Merci Joël et on vous retrouve demain avec votre dernier invité de la semaine qui sera
François Gremaud.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Comeau.
Bonjour Madeleine Louarn. Vous êtes metteur en scène, vous créez à Avignon Ludwig, un roi sur la lune, d'après un texte de Frédéric Vossier et avec la musique de Rodolphe Burger. Alors Ludwig, c'est Louis II de Bavière, le roi fou, une des figures les plus célèbres du romantisme allemand, un roi qui veut renvoyer ses ministres, qui ne veut pas parler de guerre, qui préfère organiser des fêtes, marcher dans les alentours de son château et dormir à la Belle Étoile. Alors, dans votre spectacle, le public est de part et d'autre de la scène, très proche des six comédiens qui évoluent entre deux parois dont l'une est peinte, c'est le fameux château du roi. Devant la toile jouent pendant presque tout le spectacle Rodolphe Burger et Julien Perraudot, le tout dans une atmosphère très douce, très mystérieuse et une lumière vraiment lunaire. Extrait.
L'homme qui veut vivre, vivre partout, vivre dans la civilisation, longue marche.
Il faut détruire la paresse des braves et des riches. Il faut regarder les hommes misérables, entendre le besoin essentiel de l'homme, le besoin de vivre, le besoin d'aimer, la joie et la fierté.
Alors les six interprètes sont handicapés, mais en fait ça ne caractérise pas vraiment ni le spectacle ni le jeu. En tout premier lieu très concrètement parce qu'ils ne souffrent pas du même type de handicap et que du coup leurs altérités sont toutes très différentes les unes des autres. Madeleine Louarn.
Oui, ce sont des hommes et des femmes qui ont comme point commun d'habiter au même endroit, c'est-à-dire à Morlaix, et d'être dans ce statut de travailleur handicapé, et donc de vivre dans un ESAT, voilà, parce qu'ils ont chacun une limitation à leur autonomie qui nécessite en fait un accompagnement.
Le théâtre dont vous parlez à Morlaix, c'est le théâtre de l'Entresort qui existe depuis 1992, que vous avez fondé. Oui. À l'époque, qu'est-ce que vous entendiez défendre comme type de théâtre ?
Oh là, je ne crois pas que j'avais un type de théâtre. Je crois que le théâtre est tellement divers qu'on sait qu'on fait un parcours en fait, à travers différentes histoires. Et c'est vrai que moi, mon premier choc théâtral a été quelque chose comme Tadeusz Kantor. Et donc, du coup, ça produit un effet, une attirance vers tout ce qui est un petit peu le désordre et le renversement des dadaïstes. Mais en fait, on a aussi traversé Shakespeare, Aristophane, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose d'une définition esthétique, sinon peut-être que ce sont rarement des pièces narratives. Et peut-être aussi ces acteurs-là n'ont pas la même manière d'incarner qu'un acteur, disons, handicapé normal.
C'est-à-dire ?
Et peut-être que le ressort psychologique n'est pas un fondement sur lequel on construit. Ce sont plutôt des figures qui se déplacent et qui se métamorphosent. Ce mot figure est un petit peu valise parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans, mais tout de même il a comme vertu de ne pas dessiner le trait de manière trop définitive.
Alors en quoi Ludwig, en quoi ce fameux roi Louis était un bon personnage pour le théâtre que vous voulez faire, Madeleine Loirne ?
En fait, la proposition est vraiment venue de Frédéric Vossier parce qu'il souhaitait... Il a eu envie d'écrire après l'adaptation qu'on avait faite d'Aristophane ensemble sur Les oiseaux d'Aristophane. Il nous a proposé de travailler sur cette figure de Ludwig. Sans doute, bien sûr, c'est la façon dont s'est désagrégé Ludwig dans sa fonction sociale, la manière dont la folie, ou en tout cas toute l'aspiration intérieure qu'il avait a été écrabouillée, on pourrait dire, par un système de représentation sociale et par la fonction même du roi qu'il n'a pas assumé véritablement jusqu'au bout.
C'est une figure qui attire beaucoup de fantasmes, notamment autour de toutes ces excentricités architecturales et du fameux château qui est présent sur scène, mais en même temps, ce n'est pas du tout le centre de ce que vous voulez dire de ce personnage-là.
Non, je pense vraiment que ce que vous avez entendu là du début, c'est un petit peu ce que nous, on appelle le cœur romantique. C'est réellement lié à cette révolution romantique qui veut trouver dans chaque individu une réalisation à travers... on dira le sublime, ou en tout cas une expression supérieure, ou en tout cas très élevée de soi. Et je crois que faire place à ses désirs et ses passions était vraiment, je pense, la révolution romantique. Cette révélation qui a été faite qu'au fond, nous avions tous des rêves et des désirs de réalisation qui sont singuliers. Et le principal... souci, tout ce qui habitait la passion même dévorante de Ludwig était pour les arts, pour la musique et pour évidemment ces châteaux, cette vie en fait fantasmée qui est une sorte de signifiant vide parce qu'on voit ces répliques du château de Versailles, ces répliques d'un château moyenâgeux, tout ça qui en fait toutes ces choses là qui au fond sont sans fondement au moment où il les construit. Donc ils ont quelque chose d'un artefact complet.
Vous parlez d'ailleurs de son journal, qui a été, je crois, une source pour le texte de Frédéric Vossier. À quoi il ressemble, ce journal, et qu'est-ce qui, vous a particulièrement marqué dedans ?
En fait, c'est la division qui est très importante. C'est-à-dire que le journal intime de Ludwig est une sorte de jet... comme ça, de fougue contre son propre désir pour homosexuel. Donc, chaque fois qu'il cède à ce désir, il se flagelle. Et donc, on a comme ça quelqu'un qui passe son temps à dire jamais plus, jamais plus, jamais plus, et en fait à céder la fois suivante. Donc c'est une succession de chutes à cette injonction, et il cesse en fait de... Il s'en remet même à Dieu, à Jésus, pour essayer de limiter sa passion homosexuelle. Évidemment, c'est un échec à chaque fois. Alors qu'on voit dans son courrier, dans ses lettres à Wagner ou à Sissi, au contraire, une très grande érudition, un attachement à la littérature, quelque chose d'assez sophistiqué. Donc on a vraiment, pour le coup, deux écritures.
Faut-il se toucher pour la dernière fois? Les baisers doivent-ils cesser? Que faire de ma bouche? Que faire de mes mains? Que faire de mon sexe? Qu'est-ce qui se passe-t-il sous la peau? Qu'est-ce qui coule sous la peau, sous les jambes, jusqu'aux pieds? Oh, le sang qui brûle, le cœur serré, ne plus rien voir, ne plus rien sentir, ne plus regarder les garçons d'écurie et les laquais.
Il y a quelque chose de très sexuel dans le texte et dans la manière dont vous l'avez mis en scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé facilement avec vos acteurs, Madeleine Louarn ?
Ça n'a pas posé de problème particulier. On en a évidemment discuté. Mais je crois que le travail de chorégraphie a permis de trouver la sensualité qui était de la proximité aussi, de la chaleur entre les acteurs. Et c'était vraiment un chemin tout à fait... facile à suivre, en fait.
Parce qu'on sait à quel point la vie sexuelle des personnes handicapées est un tabou, c'est un problème. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2 ans, sur le sujet, qui est passé assez inaperçu, qui était assez intéressant. Un film de Philippe Barassa qui s'appelait Indésirable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non. Mais j'ai pensé à ce film pendant la mise en scène. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Est-ce que le point de vue que vous adoptez avec ce type de théâtre, il est militant, Madeleine Louarn?
En fait, je crois pas. En fait, je n'ai pas souhaité, moi, en tout cas, y mettre une cause particulière. Mais il est un fait que de mettre en scène des personnes qu'on ne voit pas, ou qui sont, j'allais dire, dans un corps social pas bien normé, ou dans un corps tout simplement marqué, ça a un effet forcément... ça demande au spectateur une position. Ça, c'est sûr. De quelle façon est-ce qu'il regarde? De quelle façon est-ce qu'il perçoit? De quelle façon il comprend? Et forcément, ça, c'est une vraie interrogation qui est posée. C'est pas seulement le texte du plateau, mais c'est aussi la présence physique concrète. Moi, j'ai toujours pensé, mais je crois que c'est cette entrée par le dadaïsme et par Picabia et Duchamp, le fait que l'art est forcément là où on ne l'attend pas. Et j'ai toujours pensé aussi que la manière dont les hommes et les femmes qui sont dans cette situation d'assistance, en partie, ont une manière de voir et d'entendre qui est rarement perçue par les autres. Et moi-même, d'ailleurs, je suis souvent devant des énigmes. Donc ça m'a paru être un endroit exceptionnellement théâtral que de pouvoir... faire voir et entendre ce qu'on ne voit et non, on n'entend pas habituellement.
Il y a d'autres metteurs en scène et des chorégraphes qui ont travaillé avec des handicapés. On parlait tout à l'heure avec Thierry Thunang. Et je pense aussi à Jérôme Bell, par exemple, qui avait monté un spectacle qui s'appelait Disabled Theater, dans lequel défilaient des personnes handicapées qui dansaient pendant une certaine période sur une chorégraphie que eux avaient choisie. Et en fait, il avait été très critiqué à l'époque, Jérôme Bell. Il y avait eu une critique notamment cinglante de Télérama qui se concluait ainsi. Je voulais vous soumettre cette proposition. Impossible de prétendre faire du théâtre expérimental avec des personnes qui n'ont pas signé le même contrat spectaculaire que vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Madeleine Louarn?
Alors, cette question de l'égalité ou de dans une situation, oui, équivalente, pour l'instant, ça n'est pas le cas, c'est sûr. Mais je dirais qu'à une époque, les femmes n'étaient pas équivalentes des hommes non plus. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas franchir les espaces. Moi, je n'ai jamais senti que Jérôme Bell dépassait une limite. ces hommes et ces femmes, il faut leur donner le crédit qu'ils sont capables d'être intègres et qu'on puisse aussi les percevoir dans leur totale intégrité. Leur dénier la possibilité de choisir, ou en tout cas de dire non, si jamais... Je trouve que c'est un tort. Je trouve que même si, effectivement, on est gêné par la manière dont les choses se passent, à mon avis, il a respecté leur possibilité de dire non ou oui. Et en ça, je trouve que ce serait... C'est diminuer la personne que de supposer qu'elle ne pouvait pas dire non.
Votre spectacle, Madeleine Loire, est très musical. Vous aviez déjà collaboré avec Rodolphe Burger dans un précédent spectacle en 2014. Qu'est-ce qui convient à votre travail dans sa musique à lui ?
Alors d'abord, Rodolphe est un homme qui a un parcours artistique très très large, que ce soit la littérature, que ce soit la philosophie, que ce soit la danse, le cinéma. C'est quelqu'un qui aime tous les arts, et en fait c'est surtout une rencontre humaine. Moi j'adorais Katonoma quand j'étais adolescente, j'aime toujours beaucoup, et c'est plutôt le fait que ce soit une affaire humaine avant d'être une affaire musicale. Je ne devrais pas dire ça parce que j'adore ce qu'ils se font, vraiment, mais c'est vraiment le déclenchement a d'abord été ça, et l'évidence de la musique a été vraiment un support extraordinaire pour nous.
On écoute. Michael Jackson dans le spectacle, parce qu'il y a vraiment un interprète qui a quelque chose de très Michael Jacksonesque dans le style Madeleine Loire.
Mais en fait, en discutant avec Frédéric Vossier, on s'était demandé quelle était la figure aujourd'hui contemporaine qui, comme ça, pouvait cristalliser tout ce qui a été cristallisé sur la figure de Ludwig. Donc la musique, une renommée internationale, quelqu'un qui était très très beau. Puisque Ludwig était considéré comme le plus beau roi d'Europe, quelqu'un qui avait une sexualité compliquée et qui s'est créé un monde totalement imaginaire. Et on a évidemment tout de suite pensé à Michael Jackson. Et il se trouve que moi, je connaissais la version Billie Jean de Rodolphe. Donc, et c'était totalement spontané. Et en plus, les acteurs connaissent Don Guillaume, qui danse comme Michael Jackson, connaît par cœur toute sa discographie, donc voilà, les choses sont venues extrêmement simplement.
Est-ce que eux, ils ont choisi des musiques parfois ? Est-ce qu'ils avaient des idées ?
Non, pas en termes de choix, dans le sens où ils sont arrivés avec quelque chose en disant on voudrait avoir ça, parce qu'en fait, il y avait suffisamment de matériaux complexes à réunir pour que Julien Perraudeau et Rodolphe Burger, tous les deux, ont vraiment fait un travail admirable de sample, d'organisation, de passage, de musique. Que ce soit, on entend les pas dans la neige de Debussy, mais on entend aussi des morceaux de Wagner. Et en même temps, on entend ces samples et des chansons et des morceaux que Rodolphe a composés. Donc c'est un univers complet, en fait.
Un grand merci à vous, Madeleine Loire. Ludwig, un roi sur la lune, sera en tournée la saison prochaine, en décembre à Saint-Denis, en mars à Orléans, en avril à Besançon. Entre autres dates, on les mettra sur notre site. Restez bien à l'écoute sur France Culture à 17h. Ne manquez pas les rencontres de Pétrarque à quelques encablures d'ici. À Montpellier, aujourd'hui, s'orienter dans un monde en mouvement avec Corinne Pelluchon, Camille Grand et Patrick Boucheron, c'est en public. Et ce soir, également en public et en direct du Musée Calvé, où vous êtes les bienvenus. Il se trouve que les oreilles n'ont pas d'oreilles. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Dans le cadre du cycle Pascal Quignard que proposent les fictions, ce sera à 20h. Quant à nous, on se retrouve demain pour la dernière émission en direct du Festival d'Avignon avec Aurélien Bory, quelques membres du collectif flamand FC Bergman. Et puis, nous tirons le portrait de Jean-Claude Grimbert et de la musique live, puisque nous accueillerons l'artiste brésilien Tigana Santana. Il jouera en direct, alors soyez là. L'émission La Grande Table d'été est préparée par Aïssa Touendoy, Anne-Catherine Lechat, Anna Baron, Lila Bozès, Lucide Pertuis et Boris Pinault ici à Avignon, à la réalisation Peyre Legras, équipe technique Georges Thau, Fabien Gosset, Benjamin Thuot, chargée de production Sandrine Bréchaud. Vous pouvez comme toujours retrouver l'émission sur le site de France Culture, la télécharger, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.